Alors donc, amis, bonsoir et puis bienvenue tous. Alors amis, avant de laisser place aux conférenciers, peut-être avez-vous omis d'éteindre vos portables qui risqueraient de gêner le bon déroulement de la conférence et qui a pour titre « La réincarnation, un nouveau regard sur la vie et sur la mort ». Mais pour l'introduire, voici deux extraits tirés donc des principes généraux de la théosophie, Pachis, et aussi de l'épitomé de théosophie de William Quandjage. La doctrine de la réincarnation peut se traduire comme suit. L'homme, considéré comme penseur, composé d'âme, mental et esprit, occupe des corps successifs, vie après vie sur la terre, qui est la scène de son évolution, où il doit, en obéissant aux lois mêmes de son être, aller jusqu'au bout de cette évolution, une fois qu'elle a commencé. Dans chacune de ses existences, il est connu des autres hommes sous les traits d'une personnalité, mais dans toute l'immensité de l'éternité, il demeure un individu unique, porteur en lui-même du sentiment d'une identité indépendante d'un nom, d'une forme ou du jeu de la mémoire. Ainsi, l'esprit dans l'homme est la seule partie réelle et permanente de son être, le reste de sa nature étant un composé variable. Et comme tout composé, est sujet à la décomposition. Tout est impermanent dans l'homme, sauf son esprit. De plus, l'univers étant un et non divers, et chaque chose qui s'y trouve étant unie au tout et à chacune de ses parties, ce qui est parfaitement connu sur le plan supérieur, aucune action, aucune pensée ne peut se produire sans que chaque fragment du grand tout ne l'aperçoive et n'en garde l'impression. Il s'ensuit que tous les êtres sont indissolublement unis par le lien de la fraternité. Ainsi donc, les formes minérales, végétales et animales emprisonnent chacune une étincelle du divin, un fragment de l'indivisible Purusha, esprit. Ces étincelles luttent pour retourner au Père, en d'autres mots, pour acquérir la soi-conscience, et parviennent finalement à la forme supérieure sur Terre, celle de l'homme, la seule où la soi-conscience leur soit possible. La période calculée en temps humain, pendant laquelle se poursuit cette évolution, embrasse des millions d'âges. Chaque étincelle de divinité a donc toute cette durée immense devant elle pour accomplir sa mission qui consiste à acquérir la soi-conscience complète quand elle se trouve dans la forme humaine. Mais ceci ne signifie pas que le simple fait de s'incarner dans une forme humaine confère la soi-conscience à cette étincelle divine. Cette grande œuvre peut être réalisée au cours du Manvantara, qui est un grand cycle de manifestation de l'univers, où une étincelle divine arrive à l'état humain, mais il se peut aussi qu'elle n'aboutisse pas. Tout dépend de la volonté et des efforts de chaque individu. Voici la conférence.
Amis, nous sommes tous libres de penser ce que nous voulons au sujet de la vie et de la mort, mais nous n'échapperons pas au poids de la tradition, même si les traditions s'usent et avec elles les forces qui les défendent. Pendant des siècles, l'Occident a été dominé par la religion chrétienne, qui a donné des explications sur ce que nous faisions sur Terre, sur ce qui nous attend après la mort, mais on voit que les forces qui soutenaient cette religion commence à battre de l'aile et on voit se développer des traditions nouvelles qui ne sont en fait que des renaissances d'idées qui ont eu cours dans un passé plus ou moins lointain. Alors, sous l'effet de la science, on voit naître un courant matérialiste qui prétend qu'après cette vie, il n'y a plus rien. Pas même d'âme consciente ou de conscience qui paraissent capables de survivre à la mort, d'une part, et aussi, parallèlement, peut-être un peu plus tardivement, on voit se développer une tradition occidentale qui croit en la réincarnation. On voit fleurir certains témoignages d'individus qui prétendent avoir retrouvé des vies passées, et plus les gens en parlent, et plus ce sont des personnes en vue, en vogue, des artistes, des chanteurs ou autres personnes en vue, eh bien, plus cette tradition s'enracine petit à petit pour conduire l'Occident à accepter l'idée de la réincarnation. Alors ceci nous interroge et il se trouve que la réincarnation, qui était pratiquement inconnue jusqu'alors, a été mise à l'honneur par les efforts de Madame Blavatsky à partir de 1875. Et pourtant, les théosophes se trouvent un peu débordés par ce courant nouveau qui parle de réincarnation, mais d'une façon sauvage, un peu sauvage, si l'on peut dire, qui manque de la philosophie essentielle, et c'est là-dessus que nous allons insister ce soir. Alors, tout dépend, bien entendu, de la vision que l'on a de l'homme, de ce qu'il fait sur la terre et de ce qu'il attend après la mort. S'il n'y a qu'une seule vie, le regard que l'on porte sur la vie et sur la mort va dépendre de cette vision, et comme l'aurait dit saint Paul à un certain moment de sa vie, mangeons et buvons, puisqu'au bout du compte ce sera la fin, et par conséquent faisons tout ce qu'il faut pour profiter de cette vie, même s'il faut éventuellement marcher un peu sur les pieds du voisin, peu importe. Il n'y a aucune base d'éthique dans cette vision qui vaut ce qu'elle vaut et que l'on peut défendre. Mais enfin, une vision un peu dangereuse, il faut bien le dire. Si au contraire, on croit qu'une âme immortelle se loge quelque part dans l'homme, quelque chose qui va survivre à la mort, alors en gros, on peut envisager deux possibilités. Ou bien il y a une seule vie, et après l'âme immortelle va survivre pour l'éternité, elle va recevoir peut-être sa récompense ou s'élever vers le Dieu qui a créé cette âme. Ou bien, il y a plusieurs vies. Alors, on voit un peu que le regard est différent sur la vie et sur la mort suivant ses optiques. Si on croit qu'il n'y a qu'une seule vie et que tout a été créé par Dieu, il est vrai que cette vie est une probation, une série d'épreuves. Il faut se qualifier pour gagner la grâce après la mort. Bon, alors on va faire ce qu'on peut, on écoutera l'enseignement de Jésus, par exemple, et la mort va arriver. La mort, à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez inquiétant, parce que on ne peut pas vraiment tous se targuer d'avoir fait tout le nécessaire pour mériter la grâce. Et puis les explications qui sont données sur la mort ne sont pas toujours très claires. De sorte que les croyants vont bien souvent organiser leur vie en essayant d'être le plus saint possible, d'un certain côté, en essayant de vivre leur vie un peu à l'image de ce que font les matérialistes. Et avec ça, on va vivre cas un cas jusqu'à ce que l'heure de la mort arrive. Alors maintenant, si au contraire il y a plusieurs vies avec cette âme dont on a parlé, le schéma est différent. C'est vrai, la vie reste probatoire, on va conditionner la suite des incarnations, et cela tous les réincarnationnistes le croient. Et alors, comment regarder la mort? Eh bien, c'est une interruption et l'entrée dans une période un peu vague où l'on va recevoir les fruits de karma, c'est-à-dire des actions sous forme d'une punition, on va aller en enfer ou bien on va aller au ciel. Mais tout ça n'étant que provisoire, on va revenir sur terre et continuer. Bien sûr, tout ça dépendra de la philosophie que l'on a. Bon, en Occident, nous en sommes ici, à une situation dans laquelle on ne s'embarrasse pas de philosophie. On accepte éventuellement la réincarnation avec l'idée d'un retour agréable sur terre où l'on va revoir ses chers parents, ses amis, on va continuer la route avec eux, éventuellement liquider quelques petits problèmes anciens et comme ça s'acheminer vers, on ne sait pas exactement quoi, avec un plus tout de même, mais en étant toujours moi, avec la même personnalité. C'est moi qui vis, c'est moi qui ai vécu dans le passé, c'est moi qui vivrai après la mort. Tout ça tant qu'il faudra, et je reviendrai en ayant décidé de ma nouvelle incarnation. Alors tout ça, c'est un beau roman, hein, mais pour la théosophie, ça ne correspond pas du tout à la réalité. La théosophie va reprendre toutes ses approches en disant « Il y a probablement quelque chose d'assez vrai dans chacune de ces attitudes, mais certaines idées sont radicalement fausses. » Par conséquent, il va falloir revoir les choses en profondeur pour donner à la réincarnation toute son ampleur afin de dégager un nouveau regard sur la vie et sur la mort qui soit vraiment homogène et qui réponde à la dynamique profonde de la vie de tout cet univers, pas seulement de mon petit moi, mais de tout l'univers. Donc il faut s'attendre à changer beaucoup de choses. Pour la théosophie, d'après tout ce qui a été dit, on va opposer beaucoup de non, ajouter pas mal de mais, et on va donner des compléments d'information. Ainsi, la théosophie dira non à un Dieu personnel, créateur, qui aurait tout fabriqué, qui serait le patron de cet univers, qui nous entraînerait dans le jeu de ses lois, qui serait prêt à nous juger. D'après la théosophie, ça c'est une vision pour les masses, hein, pour que les individus se tiennent tranquilles, pour tenter d'expliquer que les idées reposent sur une espèce de fondement. Donc, à la place d'un Dieu personnel, on va mettre un principe absolu, d'où tout émane et où tout retournera, mais qui se présente comme un pivot, qui est la source éternelle de toute vie, de toute conscience, de toute matière, de toute énergie, de tout ce qui un jour va apparaître au monde et qui ne sera qu'une manifestation transitoire, provisoire de ce grand pouvoir central dont on ne peut pas dire grand-chose, mais qui est postulé en fait par toutes les religions dans leur ésotérisme. Maintenant, on va dire non à l'idée d'un temps linéaire lorsque le Dieu déciderait de commencer l'univers et qui se terminerait lorsque ce Dieu déclarerait que c'est la fin des temps, la fin du monde. À la place de cette idée linéaire, on va mettre une idée cyclique, comme une pulsation de la vie, tels que les univers apparaissent comme développés, émanés de ce principe ou de cette cause première qui rayonne de ce principe. Alors, ces univers vont se développer, le temps d'une manifestation, le temps d'une série très, très grande, et qui vont connaître, ces univers, une fin provisoire. Donc, cet univers va arriver à sa fin, puis le temps d'une période de repos, le temps d'une période d'assimilation, un nouvel univers va apparaître, et ceci dans l'éternité de la durée, avec cette idée de pulsation, cette idée de loi des cycles, cette espèce de malaxage des formes de la vie, où tout a un sens, bien entendu. Maintenant, lorsqu'on va penser à l'univers, à cette vie en activité, on va dire non à une vision fixiste des choses. Avec ce Dieu qui serait tout en haut, accompagné par toutes sortes d'anges plus ou moins parfaits, puis un peu plus bas une terre pour abriter des hommes, puis des animaux, des plantes étant là pour le bénéfice des hommes, et servant un peu de décor. Dans tout cet ensemble, les hommes seraient là en probation pour tenter de rejoindre leur créateur, pour tenter de comprendre à quoi sert la vie. Ça, c'est une vision statique, où rien ne change. Les hommes sont là comme en attente de découvrir le secret de la vie et de répondre aux aspirations du Dieu qui voudrait que ses créatures le comprennent et s'élèvent vers lui. À la place de cela, nous allons camper un grand théâtre d'évolution qui serait tout l'univers, où la conscience et la matière, où l'esprit et la substance sont constamment confrontés à travers l'apparition de toutes les formes de vie qui puissent être imaginées, depuis le début jusqu'à la fin de l'univers, des formes toutes provisoires qui servent le temps d'un certain nombre d'expériences, mais derrière cela, quelque chose de permanent, une conscience qui va monter progressivement de plan en plan, d'expérience en expérience, une conscience répartis dans des milliards et des milliards de points d'entités qui tout évoluent, donc qui changent, qui passent par des stades provisoires, en gardant le fruit des expériences faites, autrement dit, un grand théâtre vivant où tout bouge, où tout est en pulsation, mais où il y a quand même une dérive, un mouvement ascendant des consciences qui vont vers un éveil progressif des stades les plus inférieurs, donc depuis le stade atomique jusqu'au minéral, végétal, animal, humain, et bien au-delà encore vers des stades qui dépassent carrément de très loin le stade humain. Et puis même jusqu'au plus haut des archanges qui sont cités souvent dans les religions. Donc, un théâtre d'expérience qui sert à l'émancipation de ces consciences, à ces montées progressives de cette conscience à travers toutes les entités qui peuplent ce théâtre. Mais en même temps, la matière n'est pas oubliée parce qu'il est aussi prévu qu'à travers ces échanges constants se produise une spiritualisation progressive de la matière, autrement dit, une aptitude de plus en plus élevée de la matière à refléter ou à soutenir ces états de conscience de plus en plus spirituels. C'est un théâtre d'évolution tout à fait surprenant, ce à quoi on n'avait pas du tout songé. Bien sûr que les animaux ne sont plus simplement des éléments de figuration faisant partie d'un décor. Chacun a sa place et l'homme, avec son intelligence, son pouvoir de réflexion, de responsabilité, a une place centrale au sein de ce grand théâtre, puisque de lui, de l'homme, dépend aussi l'évolution des règnes inférieurs et sans doute également des règnes supérieurs. Alors maintenant, lorsqu'on va parler d'âme immortelle, nous allons, avec la théosophie, dire non, l'âme n'a pas été créée une bonne fois pour toutes immortelle, c'est-à-dire une psyché immortelle, un je tel que je suis, avec ses pensées, ses désirs, un monsieur X, une madame Y, éternellement masculin ou féminin, à travers toutes les expériences possibles, mais un foyer de conscience, encore une fois, un foyer de conscience individuel, un foyer de conscience en fait universel, mais individualisé, autrement dit, derrière chaque personne, chaque être que l'on peut voir, et particulièrement chaque être humain, se trouve une individualité qui n'est pas un personnage masculin ou féminin, mais une individualité capable de manifester toutes les potentialités du masculin et toutes les potentialités du féminin à travers des corps, à travers des personnalités, à travers les personnages X ou Y que nous sommes en ce moment. Et là, bien sûr, ce foyer individualisé de la grande conscience universelle n'est pas là pour rien, mais pour, à travers ses formes, à travers ses corps, à travers ses personnalités, donc, on le redit encore, monter progressivement dans le sens de l'éveil, dans le sens de la dilatation de la conscience aux dimensions de l'univers. Autrement dit, de retrouver sa source universelle. Alors c'est une probation, bien sûr, mais une probation d'un genre tout à fait particulier. Et si l'on veut bien changer les différents points de vue qui sont adoptés en général pour examiner les choses sous l'angle de la théosophie, forcément, la vie aura un sens différent et forcément la mort aura également un sens différent. Alors, il faut encore ajouter ceci. Pour la majorité de nos contemporains, la réincarnation, c'est le retour de ma petite psyché, de mon petit moi qui voyage à travers le temps et l'espace pour faire son beurre, entre parenthèses, et en quelque sorte pour progresser peut-être, pour devenir plus grand, mais c'est toujours mon petit moi. Alors il faut dire non à cette vision-là et dire mais la réincarnation n'est pas une affaire individualiste ou personnelle, c'est une affaire collective. Nous sommes tous collectivement le soi profond, l'entité transpersonnelle, une même famille unie, une seule fraternité d'âme qui s'étend à travers toutes les entités qui peuplent cette terre, sans parler de l'univers, une fraternité lancé dans ce grand processus solidairement à travers la réincarnation. Autrement dit, chaque individu revient sur Terre, par la réincarnation, profite de l'aide de toute la collectivité, ne serait-ce que de celle de des parents, mais en même temps est appelé par la nature à apporter son aide à la collectivité. Donc, pas de réincarnation individuelle pour moi seulement, c'est un processus collectif qui intéresse toute la planète, où chacun est appelé à apporter sa contribution. Il n'est pas question, dans l'optique de la théosophie, de sortir le plus vite possible de l'océan du samsara, de façon à trouver la petite porte d'évasion qui va nous conduire au ciel définitivement. L'idée mise en avant par la théosophie est « Devenez conscient que toute la nature autour de vous est là et attend quelque chose de vous. Hein, toute la nature attend quelque chose de vous. » Alors maintenant, envisageons ce que ce schéma change à la vie. Quel regard allons-nous poser sur la vie? Quel sera le nouveau regard que l'on va poser sur la mort? Pour le nouveau regard sur la vie, eh bien, ça va être à chacun de se poser la question, de s'interroger, parce que dans toutes les circonstances que nous allons traverser, il y aura cette question. Qu'est-ce que la réincarnation va changer dans l'optique très large, sans limite, généreuse de la théosophie? Si l'on prend par exemple la naissance d'un enfant, pour les parents, l'enfant, c'est le produit de leur corps, et même de leur âme presque. Non, c'est un corps provisoire qui a bien sûr été amené par les parents, dans lequel se trouve une âme immortelle, pas encore, mais une psyché en construction, un cerveau en construction. Nous savons bien que le cerveau n'est pas fini au moment de la naissance, et un être en construction se trouve à l'arrière de cette façade très belle, admirable. Derrière cette façade, il y a ce soi profond, cette entité profonde, transpersonnelle, qui attend que, progressivement, les éléments se mettent en place pour prendre possession de ce corps, de cette psyché, pour animer cet être humain nouveau, pour essayer de faire passer au travers de ce messager, au travers de ce représentant terrestre, de sa propre grandeur, de faire passer les potentialités que ce soi porte en lui-même, ces potentialités infinies, parce que ce que les plus grands génies sur Terre ont manifesté, ça n'est qu'une petite étincelle, un petit aperçu de cette grandeur que nous portons en nous. Alors, imaginons, lorsque nous voyons un enfant, il nous faudrait avoir une certaine attitude de respect envers cet être potentiellement grandiose, en pensant à tout ce qui pourrait un jour se manifester à travers lui. Bien sûr, la loi de karma va jouer, et là encore, il faudrait revenir sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Karma, habituellement, c'est « je fais ceci, c'est bien, je vais être récompensé, je fais cela, c'est mal, donc je vais être puni, sinon sur cette terre, peut-être après la mort, en enfer ou ailleurs ». La loi de karma, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. La loi de karma, c'est la loi de la dynamique de la vie qui nous replace inlassablement face aux conséquences de nos attitudes, de nos actions, de nos choix. Il ne s'agit pas d'une espèce de récompense ou de punition selon un certain barème, mais c'est une rectification de notre orientation qui nous est imposée par les circonstances de la vie, par tous les événements qui se présentent et au sujet desquels nous sommes amenés à nous poser des questions. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi tel autre a tel avantage et pas moi? Pourquoi toutes ces différences dans la vie entre tous les individus, etc., etc. La réponse se trouvera précisément dans cette loi de karma. La réponse sera dans les choix, dans les différentes attitudes qui ont été faites individuellement et collectivement par la petite collectivité à laquelle nous avons appartenu ou par la grande collectivité, que ce soit notre famille, notre passé, notre nation. Si on veut bien voir les choses sous cet angle, tout être est la promesse d'un homme immense, limité certes par les conditions de l'incarnation, limité par les conditions karmiques, aussi par le résultat des choix, des attitudes, des pensées, des désirs qui ont été générés dans des incarnations passées ou même dans l'incarnation présente. Si on veut bien considérer l'enfant dans ce sens, alors bien sûr, les directives concernant son éducation seront un peu différentes. Il ne s'agira pas de le bourrer d'un tas de choses, de lui remplir l'esprit d'un tas de connaissances, dont bien sûr certaines sont indispensables dans la société où nous vivons, mais l'essentiel serait de réveiller le Dieu potentiel qui est en lui, de lui faire prendre conscience de ce qu'il porte en lui, qu'il ne s'identifie pas uniquement au petit personnage qu'il est en train de jouer, mais qu'il essaie déjà, petit à petit, avec le temps, de se rendre compte qu'au fond de lui se trouve présente cette réalité puissante, ce soi profond, qu'il appelle à une collaboration, en quelque sorte, qu'il appelle à devenir attentif à ce message qui peut venir de cette réalité ouverte sur l'universel, ouverte sur la fraternité, sur la justice, sur la beauté, sur la créativité, sur tout cela que nous portons en nous. Ce sont des optiques très profondément différentes. Et le regard que nous devrions porter sur les enfants devrait être aussi le regard à porter sur tout individu que nous rencontrons, qui lui aussi est une manifestation provisoire de ce grand pouvoir de conscience, d'amour, de pensée, qui est à la racine même de tout l'univers. Mais ce regard, nous devrions le porter aussi sur nous-mêmes, sans complaisance, mais sans dureté non plus, pour comprendre dans quelle mesure nous cherchons à prendre conscience de ce lien que nous avons avec l'universel, avec cette loi qui nous impose de participer à ce grand mouvement, à cette collectivité, d'apporter notre contribution et de découvrir quelle action juste nous devrions faire à tel ou tel moment. Alors, nous avons souvent parlé de choses provisoires. Tout est provisoire et ceci est une conséquence de la réincarnation, une conséquence du fait que nous sommes des êtres mortels. Provisoire notre condition d'homme ou de femme. Provisoire notre nation, français aujourd'hui, mais qu'étions-nous hier et que serons-nous demain? Provisoire toutes les conditions de notre vie. Provisoire aussi les compagnons de notre vie. Provisoire nos amis, mais aussi nos adversaires. Alors ceci nous interroge, puisque tout est provisoire, doit-on prendre la vie à la légère? Est-ce qu'on doit se dire, qu'importe, puisque cela ne va durer qu'un temps, laissons faire le temps et puis tout ira bien? Non, c'est un provisoire qui nous interroge, qui nous oblige à nous poser des questions. Ces compagnons, amis, adversaires ou ceux que nous aimons sont provisoires, c'est vrai. Nous ne les avons pas forcément rencontrés dans la vie précédente, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et nous ne les rencontrerons pas forcément dans la vie suivante, probablement dans quelques vies plus loin. Cela dépendra de la façon dont la thématique de la réincarnation va prévoir cette rencontre, ces karmas, une fois encore. Ainsi, ce provisoire cache quelque chose. Ses compagnons de vie nous interrogent, nous faisons route ensemble. Mais c'est une route qui ne va pas durer toute l'éternité. Aussi, mettons à profit ce petit moment qui nous est accordé pour essayer d'aller à l'essentiel, pour essayer de découvrir ce qui se cache derrière le visage provisoire de ceux qui nous accompagnent provisoirement, pour essayer de voir comment quelque chose de plus définitif se cache derrière ce provisoire. On peut se poser aussi des questions sur tous les événements de notre vie. Nous sommes en fait comme des navigateurs sur la mer, constamment agités par des vagues. Nous passons d'une vague à l'autre. Sur toutes ces vagues provisoires, mais indispensables, car s'il n'y avait pas de vagues, le bateau n'avancerait pas. Ce bateau a besoin de la mer et il est nécessaire que cette eau soit agitée par le vent. C'est nous-mêmes qui sommes les créateurs des vagues, c'est nous qui sommes les créateurs du vent et nous ne pouvons pas échapper à ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a à trouver derrière ce provisoire? Eh bien, la vie est là, qui nous lance un défi nouveau à chaque instant. Nous sommes appelés constamment à poser un regard nouveau sur le provisoire pour essayer de voir ce qui peut être créé de durable, ce qui peut être maintenu, engrangé, éternel à travers toutes ces fluctuations, à travers toutes ces situations provisoires. Tous ces gens que nous rencontrons, c'est un grand défi. Qu'est-ce qui est vraiment provisoire? Qu'est-ce qui est vraiment définitif? Dans les rencontres que nous faisons, les mots sont provisoires, les intentions, l'amour que nous y mettons, la volonté d'aider, de participer, la volonté de créer quelque chose de nouveau, la volonté de faire avancer toute cette grande marée de l'évolution humaine et collective. Cela semble être provisoire, mais c'est en fait une contribution à la permanence. C'est une contribution éternelle, étant donné que ce mouvement ascendant est éternel. Alors, on pourrait encore bien sûr épiloguer longtemps sur le sujet, mais le temps passe et voyons la mort maintenant. Donc la vie est provisoire, mais la mort aussi est provisoire. C'est une expérience qui ne dure pas éternellement. Ce n'est pas une espèce de rencontre avec l'anéantissement. Une personne morte n'est pas une personne anéantie, c'est simplement un changement de façade. L'âme ou la conscience profonde a changé de théâtre d'opération. Si l'on veut, l'acteur, le personnage que nous avons connu, que nous avons chéri, ce personnage est sorti de la scène et le véritable acteur qui jouait ce rôle derrière le personnage que nous avons connu, aimé ou détesté, le véritable acteur, lui, se trouve libéré. La mort libère provisoirement de notre présence dans le théâtre de la vie où nous créons les causes qui font avancer l'ensemble de l'évolution et qui en même temps nous donnent les moyens d'avancer. La mort est extraordinairement utile dans le sens où elle met fin à une expérience qui ne pouvait pas durer éternellement et qui aurait fini par devenir catastrophique si on avait pu la multiplier à l'infini. Parce que, en fait, du fait que nous vieillissons, on perd nos forces, notre intelligence peut-être, nos sens. Eh bien, la mort met un terme à tout ça de façon à ce que le véritable acteur, le soi transpersonnel, profond que nous sommes, puisse se libérer d'une part de son corps physique qui n'est plus opérationnel, se libérer aussi de toutes ces machineries psychiques, de tous ces instruments qui lui ont servi à penser, à faire des calculs mathématiques, à faire tous les programmes que nous avons créés au cours de notre vie pour être le personnage que nous avons joué. Tout ça, ça ne sert plus à rien pour l'être profond. Mais lorsqu'il se retire dans sa loge, de même qu'un acteur, il va s'éloigner du théâtre de la scène, mais dans le but d'assimiler l'or de tous les instants de sa prestation sur Terre. La nature est clémente, si l'on peut dire, dans le sens où elle va permettre à l'être réel que nous sommes, l'être profond, de revoir et de revivre intégralement tous les instants de la vie qui ont été vraiment en harmonie avec la tendance profonde de cet être qui a été inspiré par le soi transpersonnel. Et là, d'après la théosophie, l'expérience est très très longue. C'est une méditation où toutes les énergies, les désirs que nous avons pu avoir et qui n'ont pas été menés à bien, l'idéal que nous avons pu mettre dans toutes les actions, dans toutes les recherches, dans toutes les attentes, vont être revécus très intensément pour s'intégrer finalement au tissu de notre être profond. C'est une étape très importante dans le sens où nous bénéficions des lois de la nature grâce à ce stade intermédiaire que la mort nous propose. Et lorsque toutes ces énergies ont été assimilées, l'acteur, qui va ressortir de sa loge, si on peut dire, est beaucoup plus riche qu'il n'était en y entrant, du fait de cette assimilation, du fait de ce repos aussi. Et par conséquent, il va être prêt à se réincarner, c'est-à-dire à s'approcher de la Terre pour recevoir un corps, de parents terrestres bien sûr, et à construire une nouvelle psyché, un nouveau personnage, et le périple va recommencer. Et va recommencer comment ? Éternellement, parce que la vie n'arrête pas, elle est têtue. Tant que l'homme n'a pas réalisé au moins quelque chose de ce que la vie attend de lui, l'homme va être ramené au théâtre de la vie, à la réincarnation sur Terre. C'est vraiment l'idée dont il faut se pénétrer. Nous ne sommes pas là pour tirer notre épingle du jeu, pour fuir dans quelque nirvana, pour trouver la porte du ciel où l'on serait tranquille éternellement. La vie n'attend pas que nous soyons tranquilles. Elle nous permet d'être tranquilles le temps de la nuit où nous dormons, le temps de la mort où nous méditons sur la vie passée, éventuellement le temps d'une grande extase où l'âme se régénère en se replongeant dans sa source profonde, mais la nature est têtue. Elle a un grand plan qui intéresse tous les êtres qui sont pris dans ce grand mouvement d'évolution, et par conséquent, elle va demander à l'être de revenir, et de revenir même s'il a atteint cette grande réalisation qui est promise à tous, il va être appelé à revenir. Ainsi, avec la réincarnation telle que la théosophie la présente, il ne s'agit pas d'une promenade, d'une excursion qui n'en finit pas, d'une espèce de randonnée où l'on viendrait sur Terre faire des expériences pour arriver peut-être à la perfection. Tout ça, ce sont de belles paroles. Si l'on n'a pas un fond de philosophie, si l'on ne voit pas sur quoi tout cela repose. Comme le dit la Bhagavad Gita, tous les êtres sont un peu montés comme sur un manège qui tourne. Nous sommes tous entraînés dans cette grande pulsation de la vie et le mouvement nous ramène comme une spirale vers l'axe central. Et dans cette optique, si nous participons consciemment et volontairement à ce mouvement, nous sommes amenés progressivement à nous rapprocher de l'axe. C'est le défi qui nous est lancé. La réincarnation sert à la maturation progressive de l'être que nous sommes. En ce moment, nous sommes un peu comme une chrysalide qui s'ignore. Nous ne savons pas tout ce que nous portons au fond de nous-mêmes comme potentialité infinie. Mais lorsque la chrysalide, par tous ses efforts, par le résultat de tous les changements qu'elle aura opérés, par son nouveau regard sur la vie et sur la mort, lorsque cette chrysalide va arriver à maturité, et cela est prévu dans le cycle naturel de l'évolution de la Terre, de cette chrysalide va sortir un papillon dont nous n'avons aucune espèce d'idée. Si on pouvait se représenter un peu le schéma, on dirait que de l'homme terrestre que nous voyons actuellement va naître un véritable Dieu. Nous ne sommes pas en mesure d'imaginer exactement ce qu'il sera, mais ne doutons pas que ce soit un Dieu puissant, plein d'amour, plein de compassion, qui deviendra un collaborateur volontaire de tous les programmes de la nature. Et si on veut bien considérer le processus sous cet angle, la réincarnation nous pousse à considérer les cycles de vie et de mort d'une façon complètement différente. Complètement différente.